OK, on va commencer notre 64e leçon de notre série sur l'histoire de l'Église. Ce soir, on va continuer ce qu'on avait commencé le 19e siècle, la fondation de quatre contrefaçons du christianisme. On avait regardé trois, à venir jusqu'ici, et on va faire le dernier ce soir. Alors, on avait examiné jusqu'ici les Adventistes du 7e jour, les Témoins de Jéhovah, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ou les Mormons. Et on va terminer aujourd'hui notre dernière leçon sur la science chrétienne de Mary Baker Eddy. Alors, on va étudier brièvement comment ces organisations-là ont été fondées, quelles sont leurs principales croyances. On va avoir une idée de leur importance et de leur influence, ainsi que la dénonciation et la réfutation de leurs principaux faux enseignements. Alors, on le sait, le malin est un singe de Dieu, il est le maître de la contrefaçon. Alors, on va commencer à regarder un peu la science chrétienne, donc son histoire. Alors, j'ai pris l'information sur le site Vigisect. C'est tellement bien fait que je n'ai pas senti le besoin de reformuler tout ça. C'est en autant qu'on donne la source. Alors, le nom de science chrétienne. Alors, dans nos pays, elle est appelée couramment science chrétienne. Le terme « science » signifie ici « connaissance démontrable » et le terme « science chrétienne »« connaissance démontrable du Christ ». Donc, elle veut commémorer la parole et les œuvres du Maître, remettre en mémoire la valeur de Jésus-Christ et rétablir le christianisme primitif avec son élément perdu supposé des guérisons. Alors, précisons que la science chrétienne n'a aucun rapport avec l'Église de Scientologie. C'est pas la même chose. C'est deux affaires complètement différentes. Alors, comment c'est commencé? Alors, Mary Baker Eddy, c'est la fondatrice et la découvreuse, qu'on pourrait dire, de la science chrétienne. Elle est venue au monde dans une famille de fermiers pieux à Bow, dans le New Hampshire, aux États-Unis, le 16 juillet 1821. Ce sixième enfant de la famille Baker, malgré sa santé délicate, est une brillante élève tant de l'école primaire que de l'école du dimanche. Alors, réformée d'origine, elle rejoint à l'âge de 17 ans l'Église congrégationaliste, dont elle sera membre pendant 40 ans. Le 25 décembre 1843, elle épouse l'entrepreneur George Glover, qui meurt l'année suivante. En 1853, elle convole en seconde noces avec le dentiste Daniel Patterson, dont elle divorce. À cause de sa santé de plus en plus fragile, elle rencontre en 1862 le docteur Phineas Quimby. À son contact, elle est complètement guérie. Alors, le 1er février 1866, à Lynn, elle glisse sur le verglas, tombe, se brise la colonne vertébrale et reste paralysée. Un peu plus tard, en lisant le récit biblique de la guérison du paralytique dans Matthieu 9, versets 1 à 8, elle est miraculeusement guérie à Swamcott. En été 1870, elle ouvre la première école de guérison avec Richard Kennedy à Lynn. Elle se sépare de lui 2 ans plus tard pour écrire son principal ouvrage, « Science et santé » avec la clé des Écritures, qui paraît le 30 octobre 1875. Ce livre a un énorme succès et les premiers disciples affluent. L'année suivante, elle fonde l'Association scientiste chrétienne avec 7 membres. Parmi eux, elle trouve son 3e mari, Azar Gilbert Eddy, qu'elle épouse le 1er janvier 1877. Le 23 août 1879, elle ouvre à Boston la première église du Christ scientiste avec 26 membres. En 1881, elle est ordonnée pasteur. À ce moment, elle reçoit l'autorisation gouvernementale d'ouvrir à Lynn le Collège métaphysique du Massachusetts, collège qui fermera ses portes en 1889. Gilbert Eddy meurt le 3 juin 1882. En 1886, Mary Baker Eddy crée l'Association nationale des chrétiens scientistes, qui sera dissoute en 1892. Mentionnons simplement que de 1889 à 1892, elle dissout toutes les organisations scientistes qu'elle avait fondées et se retire à Concord. Cette retraite est de courte durée, car le 23 septembre 1892, elle recrée à Boston la première église du Christ scientiste. Le bâtiment abritant cette église est inauguré en 1895 devant près de 6 000 fidèles. En 1906, elle y ajoute un grand temple de 5 000 places. Après 45 ans de maladie et 45 ans de vie épanouie grâce à la science chrétienne, la fondatrice meurt à Boston le 3 décembre 1910. Alors, on va parler un peu de son l'organisation de cette affaire-là. Alors, l'église mère, la première église du Christ scientiste, est située au 210 Massachusetts Avenue à Boston. C'est le centre spirituel des scientistes du monde entier. Toutes les églises locales doivent être des filiales de l'église mère. Les églises filiales se forment dès que 16 scientistes chrétiens se regroupent, mais 4 doivent être déjà membres de l'église mère. Celle-ci est dirigée par le conseil des directeurs, composé de 5 membres. Ils sont à tour de rôle président pendant une année. L'organisation de l'église est très stricte. La structure est établie par la fondatrice dans le manuel de l'église mère. Les filiales se répartissent en églises et en sociétés. Une église doit obligatoirement avoir une salle de lecture ouverte au public. Une société répond à certaines normes, mais ne peut pas encore satisfaire aux obligations demandées à une église. Cette église n'a pas de clergé, mais connaît les praticiens, les professeurs, les lecteurs et les nurses. Chaque membre, homme ou femme, peut accéder à tous les postes. Alors, si on regarde un petit peu les statistiques, l'Église du Christ scientiste est connue dans 57 pays, répartis sur les 5 continents. Les 3100 filiales regroupent 500 000 membres. Ces derniers temps, on remarque une baisse des effectifs, dont 70 % sont des femmes. Interdite dans un certain nombre de pays, du temps du communisme, elle est autorisée à nouveau, dans plusieurs, comme dans l'ancienne Allemagne de l'Est, depuis le 3 novembre 1989. Alors, on parle un peu de leur travail qu'ils ont fait en France. Alors, les premiers scientifiques chrétiens sont arrivés en France en 1898. Ce n'est qu'en 1906 que 26 membres ont créé la première église en France à Paris. Le siège national se trouve au 42 rue Louis-Masson à Aubonne. 3 églises dans la capitale, 4 en province et 11 sociétés rassemblent 800 membres, dont la moyenne d'âge est de 55 ans. Je ne sais pas s'il y en a au Québec. S'il y en a, je n'ai jamais entendu parler. Aux États-Unis, je sais que c'était très populaire. Alors, la propagande, sont très organisés au point de vue. Alors, l'Église du Christ scientiste publie plusieurs journaux grâce à la puissante société d'édition de la science chrétienne, One Norway Street, à Boston. Les principaux journaux sont Le Moniteur de la science chrétienne, alors en anglais, c'est Christian Science Monitor. Alors, je voudrais tout donner les titres en français, mais c'est tous des titres qui se publient en anglais. Créé en 1908, le journal quotidien en anglais se vend dans 120 pays du monde. La Sentinelle de la science chrétienne, créée en 1898, qui est un hebdomadaire en anglais. Il y a aussi le Journal de la science chrétienne, l'organe officiel, qui paraît en anglais chaque mois depuis 1883. Et le Héros de la science chrétienne, qui est un mensuel paraissant en anglais depuis 1903 dans d'autres langues, par la suite, dont le français depuis 1918. Ces journaux, plus toute autre littérature de l'Église, peuvent être consultés dans les salles de lecture des différentes églises. Alors, quand on regarde la manière dont ils font le culte a lieu le dimanche matin. Il est identique dans toutes les églises du monde grâce au manuel de l'Église mère. La page 120 de ce manuel donne l'ordre exact du service dominical. Cantique, lecture d'un passage choisi des Écritures, prière silencieuse suivie de la reprise à haute voix du Notre Père, avec son interprétation spirituelle, cantique, annonce, solo, lecture de la note explicative figurant à la première page du livret trimestriel, annonce au sujet de la leçon sermon et lecture du texte d'or, lecture du passage des Écritures intitulé « Lecture alternée » et faite alternativement pour le premier lecteur et l'assistance, lecture de la leçon sermon, collecte, cantique, lecture de l'énoncé scientifique de l'être et du passage corrélatif des Écritures selon la première épître de Jean, chapitre 3, versets 1 à 3, et termine par la bénédiction. Alors les services doivent commencer et se terminer par un morceau d'orgue ou de piano approprié à la circonstance toutes les fois que cela est possible. En général, 26 sujets différents sont traités, ce qui fait que chaque sujet revient deux fois par an. Le mercredi soir, une réunion de témoignages réunit les membres. Une école du dimanche fonctionne pour les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans. Un des aspects de cette église est l'importance accordée à la guérison. Celle-ci est la conséquence directe de la prière. Elle ne peut être obtenue que par une compréhension spirituelle recherchée avec une honnêteté et une sincérité absolue. L'Église compte près de 10 000 praticiens dans le monde. Cette Église ne pratique pas le baptême ni la Sainte-Cène depuis 1908, car elle pense que ce sont des rites extérieurs sans valeur. Pour elle, le baptême est la purification et la spiritualisation de la pensée, alors que la Sainte consiste à trouver par la prière notre unité avec Dieu. Alors, pour leurs activités, alors des stations de télévision diffusent des messages de cette Église, ainsi que plus de 950 émetteurs de radio, essentiellement aux États-Unis. L'Église organise régulièrement des conférences publiques, ainsi que des activités à la Faculté des sciences de l'Université de Paris. Les salles de lecture proposent toute la littérature, mais essentiellement science et santé avec la clé des Écritures, traduite en Hollande. L'Église dispose également d'œuvres sociales. Des professeurs enseignent 30 élèves chacun sur la doctrine de la science chrétienne. Les praticiens reçoivent les malades pour des entretiens en vue de la guérison. Les nurses sont les gardes malades dans l'attente de la guérison. Alors, on parle de dissidence. Le mouvement, comme presque tous les mouvements, a connu des dissidences. Alors, l'Union scientiste chrétienne indépendante a vu le jour par refus de l'autorité de Boston. Une autre, le mouvement de la science chrétienne, est né en 1907. La Suisse abrite deux dissidences, la nouvelle science chrétienne et la science chrétienne réformée. John Dorley, mort en 1950, a créé la science chrétienne libre en 1907. Ces cinq dissidences n'ont pas de membres en France. Alors, le dernier point, c'est leurs erreurs, mais je trouve que la liste n'était pas assez complète. J'ai trouvé un autre document qui allait beaucoup plus loin. Mais on va regarder ce qu'ils disent, puis après ça, on va voir. J'ai vraiment trouvé un document qui prend doctrine par doctrine et qui examine leurs erreurs théologiques. Alors, mais les principales erreurs, selon le document Vigisec, là, alors, il dit, un chrétien évangélique, tout en reconnaissant la sincérité et la cordialité des scientistes chrétiens, ne peut accepter, premièrement, l'ouvrage de Mary Baker Eddy, qui est ajouté à la Bible, une conception assez mystique de Dieu, la séparation entre Jésus et le Christ, la suppression des institutions du Christ, le baptême et la Sainte-Cène, la spiritualisation du péché, la guérison systématique, etc. Alors, on termine ici l'article de Vigisec et j'ai voulu aller plus loin un petit peu dans les très graves erreurs théologiques de la science chrétienne, qui est le paragraphe 2. Là, on va regarder un peu ce qu'ils croient sur différents sujets et on va réfuter tout cela. Alors, pour mieux comprendre leurs erreurs théologiques, on se doit d'examiner leurs croyances à la lumière des enseignements des Saintes Écritures. Alors, premièrement, on va regarder ce que la science chrétienne enseigne sur Dieu. Selon eux, Dieu n'est pas une personne. Les principes et les idées sont une seule chose, et c'est cela qui est Dieu, selon eux. Dire qu'il y a trois personnes en Dieu, suggère les dieux païens. Dieu est un être impersonnel, un esprit impersonnel et un principe divin. L'esprit, c'est Dieu. Il ne peut y avoir qu'un Dieu. La prière adressée à Dieu n'a point de sens puisque Dieu n'est pas une personne. Alors, ce n'est pas une petite erreur, ça, c'est une erreur monumentale. Alors, je vous ai mis différents versets pour réfuter tout cela. Et je dis aussi une multitude d'autres versets. Alors, ce qu'ils enseignent sur Dieu, que ce n'est pas une personne, ce n'est pas une erreur, une erreur fatale, qu'on pourrait dire. Maintenant, ce que la science chrétienne enseigne sur Jésus-Christ. Alors, ils disent que la Vierge donna le nom de Jésus à l'enfant, qui fut l'objet de son idéal réalisé. Selon eux, Jésus fut le résultat de sa communion consciente avec Dieu. Christ est le Sauveur, mais un Sauveur impersonnel, pour arriver à se faire comprendre par des esprits incapables de concevoir une puissance spirituelle, Jésus nomma son corps chair et os. Cette manière de s'exprimer montre à quel point il était prêt à faire des concessions à l'ignorance des hommes. Alors, selon eux, Jésus-Christ n'est pas Dieu, comme il l'a déclaré. La résurrection ne fut que de la pensée spiritualisée. Ce fut une croyance matérielle subordonnée à une conception spirituelle. Jésus étant comme physique, n'était pas Christ. Jésus chassa les mauvais esprits, c'est-à-dire les mauvaises croyances. Alors, pour elle, les mauvais esprits, c'est des croyances. Alors, je pense qu'il y a encore là des erreurs très graves. Faire une séparation entre Jésus et le Christ, comme c'est complètement déraillé. La troisième enseignement par rapport à des grandes doctrines chrétiennes, c'est sur le Saint-Esprit. Alors, selon eux, le Consolateur dont parle Jean n'est autre chose que la science divine. L'affirmation émise dans la Genèse que l'Esprit coopérait avec la matière pour construire l'univers n'est basée que sur une hypothèse erronée. Alors, on voit que c'est pas des erreurs mineures, là, des erreurs majeures. Et on va regarder maintenant ce qu'ils enseignent sur le péché, qui est encore plus grave. Alors, selon eux, l'homme est incapable de pécher. L'histoire de la chute au Jardin d'Éden n'est qu'un rêve fait par Adam. Le péché, la maladie, la mort ne sont que des illusions. L'homme ne peut pas pécher parce que son essence vient de Dieu et qu'il ne possède aucune puissance par lui-même. Pour se débarrasser de l'idée du péché, il suffit de lui refuser toute existence et réalité. Alors, autrement dit, il suffit que tu le nies pour qu'il n'existe pas. Ça, c'est spécial. Alors, selon eux, l'âme est le principe divin en l'homme et ne pèche jamais. Aussi longtemps que nous croyons qu'une âme peut pécher, nous ne pourrons jamais comprendre, selon eux, la science de la vie. Alors, je vous ai mis encore là toute une série de versets pour démontrer que c'est pour ça que les Écritures enseignent. Maintenant, une autre grave erreur, quand on regarde les erreurs, elles sont monumentales, elles sont importantes, elles sont même essentielles, ce que la science chrétienne enseigne sur la rédemption. Lorsque le sang de Christ fut répandu sur la croix maudite, cela ne fut pas plus utile que s'il avait continué à couler journellement dans ses veines. Un sacrifice, quelque grand qu'il soit, serait insuffisant pour payer la dette du péché. Les disciples virent Jésus après sa crucifixion et apprirent ainsi qu'il n'était pas mort. L'efficacité de la crucifixion réside dans la bonté et l'affection qu'elle témoigna à l'humanité. La rédemption réclame une constante immolation de la part de l'homme. Que la colère de Dieu dût tomber sur son Fils bien-aimé est contraire à la nature divine. Alors, ce que la science chrétienne enseigne sur le salut, alors la délivrance finale de l'erreur n'est pas obtenue par la foi sans bonnes œuvres, ni la substitution d'une autre personne. Autrement dit, il nie un élément principal du salut, c'est que tout se fait par la substitution. Alors, il nie ça. Alors, selon eux, Dieu créa toutes choses selon son dessein ou sa pensée et fit tout parfait et éternel. Alors, la question qu'ils se posent, eux, c'est où se trouve alors la nécessité d'une nouvelle création? Alors, ce n'est pas des erreurs monumentales. Et maintenant, ce que la science chrétienne enseigne sur l'enfer. Alors, selon eux, aucun jugement final n'attend l'homme après sa mort. L'enfer, le feu et le jugement final sont des rêveries de l'imagination qui ne sont fondées sur rien. C'est le sens du péché qui sera détruit, et non pas l'âme pécheresse. Le jour du jugement vient continuellement et à chaque heure pour nous. Alors, je vais donner encore une série de versets. Alors, quelles sont les implications qu'on peut faire de cette très, très brève étude de ce mouvement-là? La science chrétienne est une secte très dangereuse à cause de ses innombrables contradictions avec la Bible. Le livre de Mary Baker Eddy, qui est mis sur le même pied d'autorité que les Écritures, la négation d'un Dieu personnel, la négation que Dieu a créé l'univers, la négation de la Trinité, la négation de la divinité de Christ, la négation de la vraie humanité de Christ, la négation de la mort substitutive de Christ, la négation de la résurrection de Christ, la négation de la deuxième venue de Christ et la négation du jugement et de l'enfer. Alors, on voit que c'est pas mineur. Alors, plus que jamais, attachons-nous aux Saintes Écritures. Deuxième application. La principale philosophie de Mary Baker Eddy est que, je vais la dire en anglais, on va la traduire, « There's no pain for the people of God ». Ça, c'était ça. Alors, traduction, « Il n'y a pas de douleur pour le peuple de Dieu ». Alors, pour elle, ça incluait l'idée de la négation de la maladie et de la mort. Et, bien entendu, ça a été détruit, tout cela, cette idée-là, par le témoignage de sa propre vie. Ses biographes racontent qu'elle était accro des drogues et qu'elle fréquenta des dentistes dans son vieil âge. Alors, si sa théorie aurait été vraie, elle aurait eu juste à nier sa maladie, à nier sa douleur, puis à nier la mort, puis elle est morte. Fait que, quelque part, je pense que... Mais je lisais d'autres articles sur elle. Elle a été reconnue aux États-Unis comme une des plus grandes femmes des États-Unis. À quelque part, si c'est ça qu'on appelle une grande femme, emmener tous ces gens-là à sa suite. Ben, fort probablement qu'elle avait des qualités intellectuelles, une capacité, un certain charisme. Parce que pour attirer 500 000 personnes, à quelque part, il faut que tu aies la suite des idées, comme on dit. Alors, de plus, elle est décédée comme tout le monde, ce qui démolissait son idée que la mort n'existe pas, qu'elle est seulement une construction de l'esprit. Demandons de la sagesse au Seigneur afin de ne jamais se laisser séduire par de pareilles philosophies humaines. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Amen.